Mesdames, messieurs et les autres, bon début d'après-midi en ce 22 avril. Vous écoutez CIBL reçoit Entêté d'avenir, une émission qui est produite en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et aujourd'hui, la thématique de cette émission mensuelle, l'éducation et l'accès à l'éducation. On vous expliquera pourquoi un peu plus tard. Tout d'abord, on aura l'actualité de la SSJB en compagnie de son président général, Maxime Laporte. Et en plus de cela, je me suis entretenu tout à l'heure avec Catherine Harel-Bourdon, qui est la présidente de la CSDM, qui est dans un plein blitz médiatique aujourd'hui, et entre autres dans les mauvaises nouvelles qu'elle reçoit, il y a toute la notion des commissaires scolaires, là, cette fonction historique qui date des années 1800 qui pourrait être en danger actuellement. Autrement, on va parler de grève étudiante, pas seulement celle qui vient de se dérouler, mais également la situer dans l'histoire et les combats sociaux d'hier et d'aujourd'hui, en compagnie de Guy Rocher, qu'on surnomme très affectueusement le doyen de la sociologie au Québec. C'est un surnom pas mal quand même. En deuxième partie d'émission, on va survoler historiquement l'apport de la SSJB avec le temps à l'éducation, à l'accès à l'éducation, en compagnie du politologue Denis Monnière qui est déjà avec nous. Merci au loin d'être là. Et puis en toute fin d'émission, Victor Morin. Qu'est-ce que ça vous dit ce nom-là? Eh bien, c'est M. Code Morin en personne, mais ses apports historiques vont énormément plus loin de ça et on dressera un peu sa biographie et son héritage à notre collectivité en compagnie de la consultante en patrimoine Diane Joly. Voilà pour l'émission, donc restez avec nous. Si je ne vous ai pas convaincu de le faire, je ne vois pas d'autre. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage. Dans quelques instants, donc, je suis en compagnie de Maître Maxime Laporte, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Guillaume Touzelbande avec vous donc pour cette édition d'Entêté d'avenir. J'avais oublié de me présenter, coudonc, et je suis en compagnie de Maître Maxime Laporte, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour Maxime, rebonjour.
Bonjour Guillaume.
On se voit chaque mois, on prend des nouvelles.
Bien certainement, temps, et ça fait toujours plaisir. C'est très agréable.
La thématique qu'on a choisie aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on l'a choisie. Ainsi, l'éducation, l'accès à l'éducation, pourquoi avoir fait ce choix-là?
Ah non, il n'y a pas de hasard. Faut comprendre que l'éducation, c'est un thème majeur de l'actualité ces temps-ci, avec les coupes qui ont été, ma foi, adoptées sous Bayon, si je ne m'abuse, et également des ministres de l'Éducation qui vont de déclarations douteuses, qui projettent de supprimer le rôle de commissaire scolaire, il y a toute cette grève étudiante là, à laquelle on assiste ces temps-ci. Et, voilà, alors c'est la raison, et enfin ce sont les raisons pour lesquelles on traite d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, en lien, bien sûr, avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et d'abord dans son actualité, vous savez, on parle d'éducation, mais aussi la dimension d'éducation populaire. Oui. C'est une des missions les plus importantes de la Société Saint-Jean-Baptiste dans son histoire et aussi aujourd'hui. Alors, je vous fais un résumé, en fait, des choses qui sont produites depuis la dernière émission. Le 7 avril, nous avons tenu une conférence de presse à Trois-Rivières en collaboration avec l'Action nationale et la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie au sujet du projet d'oléoduc Énergie Est, auquel, bien sûr, nous nous opposons. Mm-hmm. On se souviendra aussi du Front commun Speak Vert, speakvert.québec, d'écolos, d'agriculteurs, de citoyens et de défenseurs du français contre l'Office national de l'énergie qui refuse de traduire en français 30 000 pages de documents déposés par TransCanada sur Énergie Est. Le 11 avril dernier, c'était la première levée mondiale du nouveau drapeau de Kabylie.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, la Kabylie, c'est une région, une région qui aspire certainement à son autodétermination, une région d'Algérie. C'est un peuple berbère. Et voilà, donc, à l'occasion de cette levée de drapeau historique qui s'est produite donc devant la façade de la Maison Luigi Duvernay, 82 rue Charbonquist, d'ailleurs, laquelle fait face au consulat d'Algérie, on le dira. C'était en présence notamment du ministre de la médiation du gouvernement provisoire kabyle, qui est en exil à Paris. Ouais. Et donc, c'était un événement absolument formidable. Le 12 avril, bien sûr, il y avait la marche Action Climat à Québec. Il y a toute une délégation de militants, de sympathisants qui se sont rendus sur place. Nous avons émis un communiqué aussi pour faire le lien entre la question nationale et la question environnementale. Plus près de nous, le 17 avril, vendredi dernier, ouais. Donc ça, ça a été tout un coup de circuit, là, conférence de presse avec le président du mouvement Impératif français. Au sujet, vous vous souvenez de cette juge qui a rendu un jugement en anglais seulement devant deux parties francophones. Alors, à la suite de ça, c'est Maître Alali qui a demandé une traduction et le juge en chef, Roland, de la Cour supérieure, a formulé une plainte au syndic du barreau contre Maître Alali. Et ensuite, ce juge s'est prononcé dans les médias au sujet de cette plainte, donc d'une procédure judiciaire en cours, de sorte que Impératif français et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a déposé une plainte à son tour au Conseil de la magistrature contre le juge Roland. Maintenant, pour l'avenir, il y a une conférence de presse demain, 23 avril, dans la série des conférences du journal Le Patriote avec Jacques Keeble, donc directeur du journal Québec Presse de 69 à 74. Il va venir nous parler de Québec Presse. Dimanche, le 26 avril, 10h30, déjeuner-conférence Luigi Duvernay au sujet du livre Histoire du RIN de Claude Cardinal, paru chez VLB. Il y a la Journée nationale des Patriotes le 18 mai. On aura l'occasion d'en reparler.
Oui.
Une rencontre interculturelle autochtone avec Joséphine Bacon et Katia Rock le 21 mai à 19h au 82 rue Sherbrooke-Ouest. Colloque sur l'acte d'union le 5 juin de 9h à 17h avec de nombreux historiens, politologues, constitutionnalistes, dont Denis Vaujoie, Robert Comeau, Éric Bédard, Daniel Turp, Stéphane Kelly, José Navalé et Denis Monnière qui est avec nous aujourd'hui et plusieurs autres.
Il s'en
Alors,
passe
on a
choses.
Tout un programme, voilà.
Un petit mot sur les prix mérites en histoire, parce que là, on parle de coupe de mauvaises nouvelles, mais pourquoi pas une bonne?
Ah oui, ça c'est... Alors, c'est une initiative qui émane du Mouvement national des Québécois en collaboration avec le ministère de l'Éducation, de loisirs et du sport. Alors, les prix mérites en histoire, ce sont des distinctions qui sont remises à des élèves de secondaire 4 qui ont obtenu une note supérieure à 95% à l'examen en histoire du ministère. Alors, nous allons honorer ces gens-là pour Laval et Montréal. Donc, c'est un bassin de, d'élèves assez important. Donc, ça devrait se produire le 23-24 mai à l'école Le Plateau. Alors, je pense que ça va, ça va faire plaisir aux parents et aux élèves et aux professeurs, bien sûr.
Ah, l'école Le Plateau, quelle belle école!
Certainement.
bon, autrement. Bon, là, on retombe un petit peu dans le négatif. Là, vous vouliez parler, évidemment, du côté de la CSDM, toutes ces nouvelles qui arrivent de ce côté.
Ben certainement. Je pense que c'est navrant. Je pense qu'il y a une... On doit réfléchir de manière sérieuse sur le rôle des commissaires scolaires. Mm-hmm. Et pour avoir travaillé moi-même au bureau de la présidence de la Commission scolaire de Montréal, je considère que ces gens-là sont des gens absolument dévoués à leur communauté, vraiment au service des parents et aussi de la réussite scolaire. Ouais. Alors, je pense qu'on a Madame la présidente de la CSDM qui va se prononcer là-dessus.
Ben oui, elle a bien voulu m'entretenir quelques minutes à ce sujet malgré ce blitz médiatique. Ben, c'est ça, pour remettre le tout en contexte, là, la semaine dernière à peu près, le ministre de l'Éducation, M. Blais, qui a très peu subtilement laissé planer le doute quant à la survie de ce poste-là qui est historique. Et selon Catherine Harel-Bourdon, c'est un peu venu de nulle part, là, cette décision-là.
On sait que le ministre prévoit un projet de loi éventuellement et que dans ce projet de loi-là, il y aurait la portion sur la gouvernance scolaire. Quand va-t-il le présenter? Dans quel contexte? Qu'est-ce qu'il va proposer? On n'en a aucune idée. Et c'est sûr que la semaine dernière, ben, je pense que l'ensemble des commissions scolaires du Québec ont été vraiment pris par surprise avec cette annonce-là. Surtout que le ministre n'avait pas encore rencontré l'ensemble des membres de la Fédération des commissions scolaires. Moi, je l'avais rencontré le 1er avril et jamais il a été mentionné que... en remettant en question les élus scolaires.
Et cette possibilité de suppression des postes de commissaires scolaires, bien évidemment, ça inquiète au plus haut point la présidente de la CSDM.
On remet en question cette couche-là de notre société qui représente la démocratie scolaire, puis c'est très inquiétant parce qu'en fait, les parents auront-ils une voix avec qui ils vont pouvoir communiquer lorsqu'il y a un problème pour leur enfant? Philosophiquement, on est en train de remettre en question l'entièreté des concertations qu'il y a dans les régions puis dans les milieux. On le sait avec les CLD, les CEDEC, les CRI, les conférences régionales des élus. c'est des pans qui ont été mis de côté par le gouvernement. Puis là, le dernier bastion, c'est la démocratie scolaire qui existe depuis... écoutez, la CSDM, c'est l'ancienne CSDM, c'est une des premières commissions scolaires au Canada. Ça date de 1846. Et il y a toujours eu des membres de la communauté au sein des commissions scolaires. Et les élus sont là pour représenter cette communauté-là, puis prendre des décisions, puis donner des orientations. Et ça, ça m'inquiète. Fondamentalement, le Conseil des commissaires, il y a deux grands mandats. En fait, il y en a trois. Il y a répartir équitablement les richesses. Il y a veiller aux services éducatifs de qualité. Et le troisième élément, c'est participer au développement local et régional. Et je vois difficilement des gens qui ne seraient pas élus être capables de bien répondre à ces trois mandats-là.
Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut rayer cette fonction historique?
Il a été question du fait que le taux de participation n'est pas assez grand pour le gouvernement. Il a été question que ça coûtait trop cher. Mais vous savez, les élus scolaires, c'est tous des gens qui ont un autre emploi, qui font autre chose dans la vie parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leurs revenus de commissaire scolaire. C'est des gens qui sont payés entre 5 et 15 000 par année. Là. C'est des gens qui sont compétents, qui posent beaucoup de questions. Je ne sais pas si c'est des gens qui dérangent parce qu'ils posent beaucoup de questions puis parce qu'ils donnent des orientations et prennent des décisions. Mais assurément, c'est inquiétant parce que ce sont les répondants des parents et de la communauté. Ce sont des gens qui n'ont pas d'autre intérêt que l'intérêt de l'élève. Hein? Parce que ce qui m'inquiète, c'est que des gens soient là pour un autre intérêt.
Madame Arel Bourdon qui disait que, bon, la participation aux élections scolaires, pourtant, ben, c'est clair qu'il y a des façons de la mousser, cette participation-là.
Il y a des moyens à prendre pour améliorer le taux de participation. Par exemple, de faire en sorte que les gens puissent voter au scolaire en même temps qu'au municipal, puis pour d'autres grandes questions. Je comprends pas pourquoi dans les autres provinces canadiennes, les gens peuvent voter au scolaire en même temps qu'au municipal, puis qu'au Québec, on ne choisit pas cette voie-là. Il y a aussi le vote par voie électronique. Il y a toutes sortes de méthodes.
Donc, visiblement, c'est pas trop difficile à faire. Ça se fait ailleurs. La conclusion, ben, c'est que c'est un brin idéologique, finalement.
Le jour du vote, ils ont su par le premier ministre qu'il remettait en question les élections scolaires, le jour même du vote, là, alors que les gens se déplaçaient pour voter. Par la suite, on a remis en question les territoires pour des fusions, des annexions de territoires. Par la suite, on a su par le budget du gouvernement du Québec qu'on allait avoir des compressions de centaines de millions de dollars dans le réseau de l'éducation. Et là, ben, on apprend qu'on remet en question les élus scolaires. Alors, c'est sûr que c'est questionnant.
Réaction à chaud, Maxime?
Ben, austérité, quand tu nous tiens, c'est sûr qu'on est en train de détruire finalement tous nos acquis. Et puis, c'est valable cette assertion en ce qui a trait, bien sûr, au système de santé, au système d'éducation, au système de services sociaux, et maintenant les CRE, les CLD. Alors, effectivement, la démocratie québécoise au sens large, pas juste le fait d'aller voter une fois aux 4 ans, je pense qu'elle va pas s'emporter mieux, ça c'est évident.
Et là, le temps file, on va en glisser un mot avant d'en discuter davantage avec Guy Rocher dans quelques instants,
oui.
Mais on parle de démocratie estudiantine, évidemment,
oui.
Ben, tout ce qui est grève universitaire cégepienne, ça nous vient à l'esprit.
Eh bien, il y en a qui réagissent certainement plus passionnément à ces politiques d'austérité. Vous savez, Émile Cioran, l'écrivain philosophe, disait qu'il faut toujours se ranger du côté des opprimés, même quand ils ont tort, mais sans oublier pour autant qu'ils sont pétris de la même boue que leurs oppresseurs. Alors, il est évident que les gens qui, sont moins nantis, qui ont plus de difficultés à réussir dans la vie pour toutes sortes de raisons, je pense qu'il faut prendre le temps de les écouter, de les comprendre. Évidemment, ça s'exprime de toutes sortes de manières, parfois de manière navrante, mais quand on est du côté, je pense, de la vertu, de la justice, je pense qu'il faut à tout le moins prendre le temps d'entretenir un dialogue avec ces gens-là. Et bon, les étudiants ne se sentent pas écoutés, il n'y a pas de dialogue. Alors, quand il n'y a pas de dialogue, ça se passe autrement.
On va voir si la situation est comparable avec des combats étudiants précédents dans quelques instants en compagnie de Guy Rocher, qui est sociologue, qui est le doyen de la sociologie au Québec, selon plusieurs. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que citer d'autres personnes. Donc, restez avec nous, Maxime Bouchard, président général de la société La Porte. Oh là là! En tout cas, on invente des noms de famille. À la fin de l'émission, inventez-moi-en un. On va faire ça comme
oui,
ça.
Oui, Monsieur Wagner.
Ah, Guillaume Wagner, pourquoi pas. Merci beaucoup. Et ben, de toute façon, vous restez avec nous pour parler avec Guy Rocher dans quelques instants.
Avec un grand plaisir.
Vous êtes toujours à l'écoute de CIBL reçoit Entêté d'avenir à l'antenne de CIBL 101.5 Montréal. Et merci d'être avec nous d'ailleurs. Ben, si aujourd'hui, à l'émission, on parle d'accès à l'éducation, on peut pas passer à côté du printemps 2015, la récente grève étudiante. Pour en discuter, ben, on est entre très bonnes mains à l'autre bout du fil. On rejoint en direct celui qu'on considère, je l'ai dit assez depuis le début de l'émission, mais je vais le redire, comme le doyen de la socio au Québec, entre autres. Monsieur Guy Rocher, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Je vais très bien, merci, en effet.
On va commencer en faisant quelques petits pas en arrière, si vous le vouliez bien. Printemps 2015, printemps 2012, où érable, la grève des 103 millions que j'ai vécu moi-même au cégep en 2005. Les premiers mouvements étudiantins, bien avant ça au Québec, ça remonte à quand? Et est-ce que c'est un peu dans nos mœurs, là, jusqu'à un certain point?
Bien, ça remonte certainement dans les années 50, hein, parce que la première grève étudiante, elle a eu lieu en 1958. Et donc, à ce moment-là, on peut même dire que les mouvements étudiants de cette époque-là, c'était surtout des mouvements étudiants universitaires à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup dans les collèges classiques, mais dans les universités, il y avait de l'agitation. Et les mouvements étudiants et universitaires ont participé à la préparation de la Révolution tranquille, ça c'est certain. Mm-hmm. Et ils ont fait partie de la Révolution tranquille. Ils ont été actifs dans cette Révolution tranquille, ils ont proposé en particulier de repenser le système d'éducation, ils ont proposé la gratuité à l'université, ils ont proposé des changements de la direction de l'université, ils ont proposé la laïcisation des universités. Ouais. Donc il y avait beaucoup... une pensée d'avant-garde dès les années 58.
Hein. Ben,
au Québec, on a une longue histoire des mouvements étudiants.
Mais ça nous permet de faire en sorte de réaliser que c'est pas une invention de ces dernières années. L'idéal de gratuité scolaire, d'ailleurs, dans le rapport parent, vous avez siégé sur la commission parent, c'était quand même fortement suggéré, disons.
Oui, justement, la commission parent a failli recommander la gratuité, mais elle est allée moins loin en disant qu'il faudrait que la gratuité vienne éventuellement, soit graduellement établie. Mais déjà, on avait établi la gratuité au collégial, au cégep, ce qui était une grande révolution à ce moment-là. Hein.
Tout à fait.
Et donc, les mouvements étudiants, c'est une spécialité, je dirais, une particularité du Québec d'avoir des mouvements étudiants aussi vivants. Et si, aujourd'hui, les droits de scolarité à l'université ne sont pas plus élevés qu'ils ne le sont, s'ils sont moins élevés que dans toutes les provinces du Canada et des États-Unis, bien sûr, c'est parce que les mouvements étudiants ont toujours, se sont toujours mobilisés depuis les années 60. Hein, et chaque décennie, on a recommencé. Et ce sont les mouvements étudiants, ce ne sont pas les recteurs. Ce ne sont pas non plus les directeurs des cégeps qui ont demandé la gratuité ou de réduire les droits de scolarité. Ce sont les étudiants.
Donc, ces combats étudiants ont eu un impact. On discutait plutôt au téléphone aujourd'hui ensemble, M. Rocher, que bon, certains qualifient la grève qui vient de passer d'échec, en quelque sorte, la grève qui vient de se terminer. Est-ce que c'en est vraiment un? On peut quand même tirer des conclusions. Il y a des messages qui sont passés, peut-être pas de la bonne façon, mais il y a des trucs qui vont rester de ces grèves, de ces manifestations-là.
Ah, vous avez bien raison, parce que je suis un peu attristé parfois quand on insiste sur l'échec. C'est vrai qu'il y a eu peut-être eu un échec de stratégie en 2015 en comparaison de 2012. Le moment était peut-être moins bien choisi, etc. Mais il y avait un message important, en particulier concernant l'austérité qui fait mal aux étudiants et qui va faire mal de plus en plus aux étudiants, aux élèves qui s'en viennent, aux élèves qui sont dans les écoles primaires, dans les collèges et dans les universités, parce que dans les universités, ce vers quoi on s'en va, c'est réduire des cours, avoir plus d'étudiants dans les cours, fusionner des départements et éliminer des services. C'est ça qu'on est en train de faire. Là. Quand on dit des coupures dans l'université, c'est au dépens des étudiants. Et c'est au dépens des étudiants d'aujourd'hui et de ceux qui s'en viennent dans les prochaines années.
Ben tout à fait. Puis j'ai l'impression aussi que ce conflit qui vient d'arriver, peut-être que je me trompe, mais il y avait des revendications qui étaient beaucoup plus nombreuses que le simple. Et ce n'est pas simple, mais à l'accès à l'éducation, on parlait beaucoup d'austérité, on parlait de changement climatique. Est-ce que le message diffus a fait en sorte qu'il était moins percutant, par exemple?
Ça, c'est vrai. Pourtant, c'est un message d'avenir, à mon avis, même s'il était peut-être un peu confus. Mais parler des conséquences de l'austérité, c'est pour demain. Parler de ce qui se passe en ce moment en ce qui concerne notre planète, et notre environnement, c'est pour demain, c'est pour la génération qui est là, déjà au collège, à l'université, à l'école primaire. C'est pour ceux-là. Et c'est ça qui est, à mon avis, c'est ça qui est le message de ces jeunes qui voient, eux, l'avenir. Et c'est leur avenir, et moi, je trouve qu'on ne les a pas assez écoutés à cet égard, et que quand on parle de l'échec, on risque d'occulter, on risque de mettre de côté le vrai message qui, je pense, moi, va revenir. Je pense qu'on ne pourra pas ne pas reprendre le message. Si ce n'est pas l'automne prochain, ce sera bientôt.
Moi, j'ai l'impression qu'on se plaint donc qu'on n'a pas de projet de société. On nous en propose un et on le rejette du revers de la main. Sur ce, y a Maxime Laporte qui voulait vous poser une question.
Ah, d'abord, juste mentionner bien sûr que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a adopté une position favorable à la gratuité scolaire en 2012 en passant. Et puis, on va comprendre, je pense, lors de l'interview avec M. Monnière, que ça ne date pas d'hier, effectivement, en quelque sorte, que les patriotes prônent l'accessibilité à l'éducation. Professeur Rocher, nous, vous savez, on a adopté des positions en ce qui a trait notamment aux coupes par le fédéral dans les transferts en éducation postsecondaire. Ah oui, oui. D'après le ministère des Finances, on parlait d'un manque à gagner de l'ordre de 700 millions par année. Oui. Et d'autre part, je pense que vous étiez aussi intervenu sur une autre question, qui est la question de l'inéquité dans le financement entre les institutions d'enseignement supérieur anglophones et francophones. J'aimerais vous entendre là-dessus.
Oui, c'est certain que derrière le problème de l'austérité, il y a toute une question de financement et de fiscalité, de financement, de pénurie du financement par le fédéral. Le fédéral qui, de plus en plus, s'est retiré d'un financement important, qui était important il y a 20 ans, et qui nous pénalise énormément. Et ça, c'est certain. Et en plus de ça, la minorité québécoise de langue anglaise est très largement favorisée par le système actuel. Et il y a une égalité qui est en réalité une inégalité. Et ça, je pense qu'il faudrait le revoir parce que la population de langue anglaise est si bien financée et subventionnée par l'État qu'une partie de la population québécoise s'en va dans les institutions de langue anglaise.
Ça nous rappelle un peu l'histoire, par exemple, la fondation de l'UQAM, tout le contexte historique entourant cela, notamment, je pense à la manifestation là, McGill français. On voulait que les francophones qui allaient déjà au cégep accèdent effectivement à l'université plus facilement. Je pense qu'il y a un lien à faire.
Oui, c'est sûr. Le McGill français, ça ne voulait pas dire d'ouvrir nécessairement les classes à des francophones, mais ça voulait dire que McGill faisait partie d'un Québec français et devait entendre ce message-là. Mais c'est certainement une question complexe que le financement des universités. Ce n'est pas simple. Et surtout qu'il faut le voir dans la structure canadienne dans laquelle on est toujours, qu'on le veuille ou non. Et cette structure canadienne, elle ne nous favorise pas. En ce moment, c'est certain.
Ben, on parlait du fait... Vous avez glissé un mot sur l'automne. Hein? On a parlé... Était-ce réellement un échec? Oui ou non? Peu importe. Évidemment, il y a des rumeurs, il y a une possibilité, il y a un aura comme quoi il pourrait y avoir carrément une grève sociale à l'automne prochain avec les syndicats, avec les étudiants. Par contre, les mouvements étudiants, et corrigez-moi si je me trompe, historiquement, c'est assez cyclique. Ça prend un certain temps avant que les forces se refassent, finalement, pour repartir au front.
Oui, c'est cyclique. Vous avez raison. Quand on connaît l'histoire, elle a été faite, heureusement. Il y a des historiens qui ont fait l'histoire du mouvement étudiant québécois. On voit bien qu'il y a eu des hauts et des bas. Peut-être qu'en ce moment, le mouvement étudiant est certainement dans une situation qui risque d'être difficile à cause de la législation actuelle, à cause du recours aux tribunaux. Je trouve qu'en ce moment, les tribunaux jouent un drôle de rôle hein, en ce qui concerne la démocratie étudiante. Et évidemment aussi dans le fait qu'il y a un vide législatif concernant la grève, le droit de grève des étudiants. Et donc, le mouvement étudiant est et sera dans une position difficile dans les prochains mois, à mon avis.
Tout à fait.
Et d'autant plus que ce sont des minorités, c'est quelques personnes qui se présentent devant les tribunaux en réclamant le droit à l'éducation. Je suis bien d'accord, mais en même temps, ce qu'on oublie, c'est que quand on s'oppose à la grève des étudiants, on menace le droit à l'éducation d'autres étudiants, de tous ceux qui, à cause de l'austérité, n'auront pas accès à l'enseignement supérieur.
Ces personnes un brin stigmatisées qui n'ont pas autant l'accès à l'éducation, je me souviens en avoir parlé avec la Fédération autonome de l'enseignement, que ce soit des handicapés physiques, des gens qui sont à temps partiel, qui ont une famille et tout ça, évidemment, on ne pense pas toujours à ces gens-là nécessairement. Donc, accès à l'éducation, droit à l'accès à l'éducation, puis je voudrais terminer en glissant un mot comme quoi, à mes yeux du moins, faire la grève pour beaucoup d'étudiants, c'est une forme d'éducation sociale aussi, on apprend beaucoup sur le terrain.
Oui, on apprend beaucoup. Vous l'avez peut-être appris en 2005, mais je le sais, c'est pour beaucoup de jeunes une école d'action politique, une sensibilisation à ce qu'est la véritable action, à la stratégie dans l'action et à la précision des objectifs quand on se lance dans une action comme celle-là. Donc, oui, on apprend beaucoup. Et on apprend aussi beaucoup ce que vaut la solidarité humaine. Quand on est dans les rues pendant des jours, des semaines, c'est une véritable école de solidarité humaine. Et ça, c'est très important dans notre monde de plus en plus individualiste.
Aucun moyen de trouver de meilleure conclusion que ça. Guy Rocher, vous êtes entre autres professeur et sociologue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci bien de m'avoir reçu.
Merci, Monsieur Rocher. Un grand plaisir. Dans quelques instants, retrouvez-nous de l'autre côté des pubs. On va s'entretenir avec Denis Molière, politologue, professeur en sciences politiques à l'UDM, essayiste. On parle de l'apport de la SSJB, des patriotes, dans l'accès à l'éducation à travers le temps au Québec.
Les mercredis, 18h, vous avez droit de cité. Deux équipes d'étudiants universitaires s'affrontent dans une véritable joute oratoire.
Prochain débat, pour ou contre la limitation de la liberté de manifester.
Droit de cité, mercredi, 18h, à CIBL 101.5 Montréal. Une coproduction du Barreau du Québec, de la clinique juridique Juripop et de CIBL, en partenariat avec notre commanditaire principal, Québécois.
À l'échelle humaine.
Tous les organismes qui participent au développement local sont sacrifiés, tout le monde en même temps.
Dans le fond, ce qui me préoccupe, c'est le modèle d'affaires de ce genre de grand festival.
C'est des grandes valeurs humanistes.
On a un cas qui va totalement à contresens de ça, ça s'appelle le Québec.
Vos idées provoquent le changement. Faites-les entendre.
Moi, j'ai compris que si je voulais changer le monde, il fallait que je commence localement.
Tout le monde peut jouer, tout le monde peut créer.
J'y suis allé, puis ça a été un succès.
À l'échelle humaine, jeudi, 9h.
Ici Gilles Payet. Avec mes collaborateurs, je vous invite à Catherine et Laurent. Soyez branchés sur le rythme urbain et l'actualité montréalaise.
Pour tout savoir ce qui se passe à Montréal, découvrez les événements incontournables, les sorties, les artistes émergents, toutes les activités en cours et plein de performances en direct dans nos studios.
Catherine et Laurent, en semaine dès 16h, le retour à la maison 100% culturel de CIBL 101.5 Montréal.
L'édition du 22 avril de CIBL reçoit Entêté d'avenir se poursuit à CIBL, évidemment, vous le devinez. Guillaume Touzelbande, toujours avec vous. Et merci d'être là. J'espère que vous ne regrettez pas votre choix parce que c'est très intéressant depuis le début de l'émission. Et on va poursuivre dans cette bonne habitude et cette même veine en compagnie de Denis Monnière, qui est entre autres politologue, professeur et essayiste. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bon, comme on le discutait, là, on parle historiquement d'accès à l'éducation. Premièrement, et ça va avec une devise de la Société Saint-Jean-Baptiste, si je ne m'abuse, c'est carrément un outil, et là je vais utiliser un gros anglicisme, d'empowerment, c'est un outil d'émancipation, l'éducation.
Absolument. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste a eu deux slogans, ou deux mots d'ordre, « Aide-toi et le ciel t'aidera », qui signifie que l'être humain, par son travail, son effort, est perfectible et donc peut aspirer à changer sa situation. Et le deuxième mot d'ordre, c'est « Rendre le peuple meilleur ». Celui-là a été adopté en 1843, lorsque la société a été refondée. Mais avant de parler du rôle de la société oui. par rapport à l'accès à l'éducation, je pense qu'il faut remettre le contexte de l'époque. Vous savez que la Nouvelle-France, c'est un système qui fonctionnait selon le régime traditionnel européen. Donc, il y avait un système scolaire assez minimal, avec des écoles de village, très peu nombreuses, une soixantaine, et il y avait un système, disons, supérieur, entre guillemets, qui était un espèce de collège qui était géré par les jésuites. Donc, et ça, c'était tout à fait comparable à ce qui se passait ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système public d'éducation dans le monde occidental avant la fin du 18e siècle, c'est-à-dire après la Révolution française et la Révolution américaine. Le système public d'éducation est un gain révolutionnaire. Donc, après la conquête, le système d'éducation, appelons-le canadien, s'écroule. Parce que le conquérant saisit les biens des jésuites, qui étaient la principale institution d'éducation.
Et petite parenthèse, juste pour les gens qui n'ont pas eu 95% dans leur examen d'histoire de secondaire 4, comme on mentionnait tantôt, on se trouve en quelles années en ce moment?
Comment vous voulez dire en quelles années?
Ben, la conquête, on se retrouve
à quelle période? Ah oui, 1760, excusez-moi, oui.
Sans problème.
1760. Donc, le système d'éducation est complètement désorganisé, déstructuré, et pire encore, le gouvernement colonial s'empare des fonds qui étaient jusque-là utilisés pour soutenir l'éducation.
Carrément.
En Nouvelle-France.
On a fait dévier de l'argent qui était supposé.
On a complètement intégré ces fonds aux fonds consolidés du gouvernement colonial. Et donc, pendant à peu près un demi-siècle, le système d'éducation n'existera pratiquement pas. Au début du 19e siècle, à ce moment-là, on est face à une situation assez kafkaïenne, puisque trois systèmes d'éducation se mettent en compétition. Il y a évidemment l'institution royale, qui est le système des protestants, financé par le gouverneur avec les fonds des jésuites. Il y a le système de l'Église catholique, les écoles de fabrique, qu'on appelle, qui, elles, sont financées par les parents et par l'Église. Et le dernier système, c'est le système des patriotes, qui, lui, est financé par les fonds de la Chambre des communes, ou en tout cas, à l'époque, ça s'appelait l'Assemblée élue du peuple.
Ouais.
Donc, on a trois systèmes qui sont en compétition, et forcément, les deux systèmes, disons, appelons-les francophones, ne reçoivent pas de fonds venant du gouvernement. Ils n'ont pas accès à l'usage des biens des jésuites.
Il y a une réduction volontaire du pouvoir décisionnel
Alors,
des
francophones. Alors, chez les patriotes, l'objectif, c'est de créer un système public et laïque d'éducation au Bas-Canada. Ce projet, évidemment, ne pourra pas voir le jour parce que c'est l'échec de la rébellion de 37-38. Les patriotes se réfugient aux États-Unis, en particulier Louis Duvernay, le fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et là, il y a quelque chose qui change dans l'état d'esprit des patriotes parce qu'ils se rendent compte qu'aux États-Unis, il y a un système public qui forme les jeunes et aussi que ce système public est très axé sur la formation technique et professionnelle. Donc, il y a aussi un autre événement qui se produit, c'est le rapport Durham. Qu'est-ce que dit le rapport Durham en 1840? Est-ce que vous voulez que je vous donne des dates? Il dit « Les Canadiens français, c'est un peuple ignare, sans histoire, sans culture. » Évidemment, ça choque la fierté nationale des Canadiens. Et lorsque les patriotes reviennent d'exil, bien sûr, ils vont fonder la Société Saint-Jean-Baptiste avec Duvernay, mais ils vont aussi vouloir mettre en place des institutions d'enseignement pour améliorer la formation intellectuelle des Canadiens français. Mais là, ils n'ont pas de ressources. Mm-hmm. Ils sont dans un cadre du Canada uni, n'est-ce pas? Canada uni dominé majoritairement par des anglophones.
Ouais.
Et qu'est-ce que le Canada uni veut faire? Il veut utiliser les biens des jésuites, toujours, c'est une question qui n'est pas réglée, pour financer l'enseignement dans le Haut-Canada et dans le Bas-Canada. Quelle générosité, n'est-ce pas?
Mais puisque... un truc uniforme.
Ben, c'est, oui, c'est ça. C'est le Canada, ça, en fait. Hein? Alors, évidemment, ce problème n'est pas réglé. Il ne sera réglé qu'en 1867. Mais, entre-temps, disons que les députés du Canada, du Bas-Canada, vont voter pour la création des commissions scolaires en 1845. Alors, voilà le contexte. Maintenant, comment la SSJB va s'insérer dans la formation, dans l'éducation?
Comment ça s'est articulé, ben, tout voilà. ça, finalement?
Alors, comme il n'y a pas d'école publique, il n'y a pas non plus de bibliothèque à l'époque. Alors, un des premiers gestes que va faire la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est de créer un centre de lecture qui s'appelle l'Institut national, où il y aura accès à des ouvrages, à des livres, à des journaux pour éduquer les gens qui veulent lire. Et il y aura aussi, dans ce cadre-là, des débats pour former des orateurs. Évidemment, c'est important à l'époque, puisque tout passe par la parole et par le journal. Deuxième, entreprise, c'est la création du mouvement national. Alors, ça, c'est pas loin d'ici, d'ailleurs, le mouvement
ben non,
national,
en
c'est
effet.
Au bas de la rue Saint-Laurent, le ouais. monument national, oui, c'est au bas de la rue Saint-Laurent. Et donc, c'est une opération. Il s'agissait de créer un centre culturel canadien-français, un lieu où il y aurait une grande salle de spectacle pour accueillir, évidemment, des troupes de théâtre, pour accueillir des orateurs, etc., mais aussi pour donner des cours. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste se lance dans la production de programmes de cours. Mais encore là, ces programmes sont définis non pas comme c'était le cas dans les collèges classiques,
ouais.
c'est des programmes d'éducation populaire. Et ces programmes, bon, ça vise, disons, à former des gens sur les mines, en dactylographie, en commerce. Donc là, dans des secteurs où les Canadiens français sont absents. Sous le plan économique. Donc, on a voulu changer un peu de stratégie. Après, on a, disons, avant 1840, on cherche l'émancipation nationale à travers le contrôle du pouvoir politique.
Ouais.
Après 1840, on cherche l'émancipation nationale à travers la formation du peuple, à travers l'éducation
des
et à travers la culture.
Parce les capacités techniques qui vont pouvoir donner des emplois et donc de l'argent.
Exactement, et qui vont pouvoir donner le contrôle de l'économie aux Canadiens français. Ben, y a une raison à ça aussi, c'est que le contrôle du pouvoir politique n'est pas possible dans le cadre du Canada uni et par la suite de la Confédération. Alors, comment ce monument national a-t-il été créé, financé? C'est assez intéressant de voir aussi que c'est par les contributions, les souscriptions populaires, mais aussi par un apport du gouvernement du Québec, le gouvernement de Mercier, qui va instaurer, je pense que c'est la première fois dans l'histoire du Québec, une loterie pour financer pendant 10 ans la construction de ce monument dédié à la formation populaire. Là, je le rappelle, c'est très important.
Oui.
Alors, cette loterie va donc être créée et... Ce qui est intéressant par rapport à votre question sur l'accessibilité, c'est que Mercier impose une condition. Il faudra que les cours soient gratuits. Et ça, c'est très nouveau dans le contexte du Canada français de l'époque, parce que l'école était payante. Les parents devaient payer.
Ouais.
Hein? C'était pas un système public, là, je le rappelle. Il n'y a pas de ministère de l'Éducation en 1867. On en crée un, mais il disparaît quelques années plus tard. Non. Tout le système scolaire est contrôlé par l'Église. Et donc, la Société de Saint-Jean-Baptiste offre un système qui, lui, est public, accessible et surtout orienté vers les besoins économiques. Voilà, c'est une des contributions de la SSJB à la création d'une formation populaire. Il y a eu aussi une autre entreprise, un peu plus tard, celle-là, c'est dans les débuts du 20e siècle... C'est toujours le problème, comment avoir des hommes d'affaires canadiens-français. Aujourd'hui, on en a. Hein?
Oui.
À l'époque, c'était une denrée plutôt rare. Et donc, c'est l'idée de mettre sur pied une école des hautes études commerciales.
Est-ce que ça vous dit quelque
ben
chose,
oui,
ça,
une grande
hautes
institution.
Études commerciales?
Mais c'est ça le but de la SSJP. Oui. créer des institutions pérennes qui vont favoriser le développement du Canada français. Et donc, on s'est dit, pour avoir des hommes d'affaires, ben, il faut les former. Et c'est le but des HEC, qui aujourd'hui est une école de renommée internationale.
Mais carrément.
À l'origine, c'est quand même les nationalistes de la Société Saint-Jean-Baptiste qui ont concocté cette idée. Dernière, peut-être, innovation, mais disons sans remonter jusqu'à aujourd'hui, là, mais après la Deuxième Guerre mondiale, la Société Saint-Jean-Baptiste a ouvert une porte dans l'accessibilité et la gratuité parce qu'elle a institué le prêt d'honneur.
Oui.
Le prêt d'honneur, en 1944, permettait à des jeunes francophones désargentés qui n'avaient pas les moyens de payer le collège classique et l'université d'avoir accès à l'éducation supérieure. Et ce prêt d'honneur, ben, ça dure encore aujourd'hui. Voilà donc des actions concrètes, pragmatiques, que la SSJB a réalisées au cours de son histoire.
Monsieur Monnière, c'est un exposé d'une clarté effarante. Hein? Je ne suis pas trop intervenu. Je pense que je trouvais que j'allais nuire au message si je m'imposais trop. Mais en fait, c'est intéressant juste parce que ça nous... En plein visage, ça nous frappe à quel point on parle d'accès à l'éducation, comme quoi c'est pas parfait aujourd'hui, mais il y en a eu du chemin parcouru en peu de temps, ultimement, pour améliorer la situation des francophones.
Et le système que les patriotes voulaient créer dans la première moitié du 19e siècle, mm-hmm. il s'est finalement réalisé très tardivement, parce que l'éducation, il y a eu un ministère et est devenu un système public en 1963, et la déconfessionnalisation, elle, en 2000. Alors, vous voyez, ça confirme ce que vous dites. On a parcouru un long chemin, mais ça prend des organismes pour lancer des idées, pour oui. les défendre sur la place publique, pour convaincre les politiciens. C'est long, le changement social et le changement politique, mais je pense que la SSJB a joué un rôle déterminant dans la mise en place de l'idée qu'il faut former les Canadiens français et tous les Canadiens français, pas seulement ceux qui ont de l'argent.
Donc, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. On peut espérer qu'on en parcourra davantage éventuellement. Denis Monnière, vous êtes entre autres politologue, professeur, essayiste. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres encore une fois.
Merci de m'avoir reçu.
Ça fait plaisir. Dans quelques instants, ben, on parle de Victor Morin, mais bien au-delà du code Morin qu'on connaît. Qu'a-t-il légué d'autre au Québec? Beaucoup de choses. Et on en parle dans quelques instants en compagnie de Diane Joly, consultante en patrimoine. On est de retour en TT d'avenir à CIBL. Évidemment, on parle depuis le début de l'émission d'éducation, d'accès à l'éducation. Historiquement, ben, on a parlé du J. Duvernay tout à l'heure. Il y a toujours des personnages marquants, des personnages emblématiques qui symbolisent des changements sociaux. On va parler de Victor Morin, qui était entre autres ex-président de la Société Saint-Jean-Baptiste avec la consultante en patrimoine et auteure Diane Joly. Merci d'être avec nous, vous aussi.
Bonjour.
On se met en contexte. Victor Morin, c'est l'un des principaux acteurs concernés dans une thèse que vous avez soutenue en 2012. Un petit mot vite, vite là-dessus. Là, on parle de l'émergence de la notion de patrimoine au Québec.
Au Québec, oui. En fait, l'idée, c'était de voir d'où venait l'idée patrimoine au Québec. Et Victor Morin est apparu comme ça dans les recherches. Qu'est-ce qui se passe? OK.
Le micro fait son difficile, mais voilà, c'est réglé.
C'est ça. Alors, Victor Morin apparaît dans les recherches. Pourquoi? Bien, parce qu'il avait vraiment la main partout. Il était à la Société historique, à la Société d'archéologie de numismatique. Il était aussi impliqué, surtout, à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et j'en passe. Je veux dire, tout ce qui était association, société, Victor Morin était à la limite membre, mais surtout membre du conseil d'administration et même, on peut dire, président, parce que c'était son surnom, hein, le président des présidents.
Carrément.
C'est ça. Donc, le code Morin, c'est pas trop surprenant là, qu'il ait pu le rédiger, mais on en reparlera.
Oui, on en reparlera tout à fait. Ben, c'est ça, en fait, quand on se met à fouiller sur ce nom-là, on se rend compte que c'est assez impressionnant, ce curriculum-là. Petite biographie, on commence du début, là, né en 1865 à Saint-Hyacinthe, et orphelin très, très, très jeune de père, en fait.
En fait, à 8 ans, il perd son père et la veuve et le fils vont se retrouver démunis et vont devoir retourner chez les grands-parents. Victor va passer quelques années là. Éventuellement, il fait ses études classiques au Collège de Saint-Hyacinthe. C'est aussi à cette époque-là que sa mère se remarie. Et Victor, qui était enfant unique, va se retrouver dans une famille avec plusieurs frères et sœurs. Mm-hmm. Et c'est considéré par lui comme des moments bénis là, dans sa vie. Très heureux. Après ses études classiques, il va entreprendre des études en droit à l'Université Laval de Montréal, au château de Ramsay, pour faire sa claricature au cabinet Marin et Papineau, donc de la famille Papineau. Au bout de 2 ans, il retourne dans sa ville natale. Il va travailler à la commission scolaire d'Actonville. Un autre 2 ans, donc nous sommes en 1890, son ancien cabinet va le solliciter pour qu'il devienne associé et lui demander s'il veut bien déménager à Montréal. Il va accepter. Et c'est là que va commencer vraiment sa vie publique, même s'il est très discret les premières années.
Mais avant même, je pense que reculons en arrière un peu, si je ne me trompe pas chronologiquement parlant, et moi ça m'a marqué quand on en avait discuté, l'importance qu'il porte à l'éducation, qu'il clame haut et fort d'ailleurs. Et il y a cette anecdote de voyage en bateau à l'âge de 24 ans qui est pour lui extrêmement marquante et très imagée, qui va nous faire réaliser pourquoi c'est important pour lui.
En fait, c'est ça, il est sur un bateau en route vers Biddenford, aux États-Unis, et c'est une journée assez froide et pluvieuse, et au loin, il va voir des embarcations et des pêcheurs, et il réalise que leur vie est très difficile. Et Victor Morin, un des plaisirs, c'est de lire ses carnets de voyage, et dans son carnet de voyage, il va l'indiquer qu'il se considère comme très heureux d'avoir reçu une éducation, parce qu'il le voit, là, il constate que sans éducation, bien, on est voué à des métiers qui sont plus difficiles. Et c'est quelque chose qui va le suivre toute sa vie, ça. Et
c'est aussi une démonstration d'une sensibilité d'autrui aussi.
Effectivement, il est très sensible, en fait, à la misère. Il est sensible à la misère parce que lui-même l'a connu jeune. Mm-hmm. Donc, il va toujours travailler, toute sa vie, il va travailler pour le confort des enfants. Et aussi, pour améliorer le sort de ses compatriotes. Donc, c'est un leitmotiv, ça, qui le suit.
Voilà, je trouvais important d'en glisser un mot. Bien, on retourne ellipse plus tard en 1890, l'arrivée à Montréal et le début de l'implication dans la Société Saint-Jean-Baptiste.
Oui, en fait, je présume, parce que je n'ai pas retrouvé la date exacte de son adhésion à la Société Saint-Jean-Baptiste.
Il n'est pas là pour nous le confier, disons.
Mais un jeune homme francophone en 1890 qui aspire à une bonne carrière est nécessairement membre de la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, je présume qu'en 1890, à son arrivée à Montréal, il devient membre. Oui, il va devenir influent assez rapidement parce que Morin, dans ses engagements, il va développer beaucoup l'Ordre indépendant des forestiers, qui est un groupe de secours mutuel, qui, justement, sa qualité, en fait, c'est vraiment que les membres doivent prendre soin des autres membres. C'est pas juste une question de verser l'argent, mais dans les cas, justement, où il y a des orphelins qui sont impliqués, il y a des membres qui vont aller voir les familles, s'assurer que tout va bien, et on va vraiment favoriser de garder les enfants à la famille plutôt que de les placer. Bon, ça, c'est une aparté parce que...
Mais oui et
j'adore,
non, parce que...
J'adore Morin, puis ça le montre bien, là.
Il y a un lien entre l'Ordre indépendant des forestiers et le Monument national dont on parlait tout à l'heure.
Effectivement, parce que le Monument national, l'hypothèque du Monument national, on parlait tantôt de souscription, il y a des années qui étaient beaucoup plus difficiles à obtenir. Donc, à une époque, la Société Saint-Jean-Baptiste ne réussit plus à avoir de prêts bancaires, doivent payer l'hypothèque et tout. Et c'est Morin qui va... négocier avec l'Ordre indépendant des forestiers une hypothèque pour le Monument national. Et ça va durer pendant vraiment une dizaine d'années là, à rembourser.
Rien de moins. Ascension graduelle au sein de la Société Saint-Jean-Baptiste.
Tout à fait.
Il devient président en 1915, si je ne m'abuse.
Ah oui, en 1915, oui. Il va avoir fait quelques mois intérimaire, remplaçant Olivier Asselin. Okay. Pendant quelques mois, mais dès que le congrès arrive au printemps, il va être élu
Et bon, on pourrait qualifier le mot règne, je ne sais pas si c'est le bon, mais disons le temps de sa présidence. L'un de ses chevaux de bataille, visiblement, là, avec l'historique qu'on a devant nous, oui, c'est l'intégration des générations plus jeunes, en fait, impliquer les plus jeunes dans tout ce processus et mm-hmm. toutes les activités qui avaient lieu à la SSJB. Oui.
En fait, c'est bien avant son titre de président qu'il va impliquer les jeunes, parce mm-hmm. que déjà en 1909, lors du 75e anniversaire de la société, il va faire partie du comité exécutif des fêtes et il va convaincre ses collègues là, d'inclure les jeunes dans le défilé. Donc, il y a déjà cette idée-là, elle est déjà là. À partir de 1915, et là, ça devient beaucoup plus systématique mm-hmm. De trouver des moyens de parler aux jeunes, de leur montrer des choses. Bon, je pousse beaucoup les jeunes, là, mais il faut comprendre, les jeunes, c'est vraiment un des groupes qu'ils visent. Ils visent vraiment l'ensemble de ses compatriotes.
Ouais.
Mais les jeunes ont leur place, en fait. C'est ça la nouveauté là, par rapport à l'histoire, c'est qu'il inclut les jeunes dans les projets.
Dans le plus concret, il y a des activités qui sont frappantes, qui sont imagées en 1917, visite historique dans le Vieux-Montréal. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça oui. illustre bien là, ce qu'on raconte en ce moment.
En fait, exactement, en 1917, c'est le 275e anniversaire de la ville de Montréal. Mm-hmm. Et le CA de la Société Saint-Jean-Baptiste va se dire, ben, ça pourrait être intéressant de fêter la ville de Montréal. Fêter Montréal, on s'en souvient, on est presque à la fin de la guerre, c'est pas terminé encore, c'est un peu morose à Montréal. Donc, eux, ils voient ça comme une occasion de se faire plaisir là, et de s'amuser. Morin, je vous disais tantôt, il était également à la Société historique, à la Société d'archéologie. Donc, pour lui, c'est assez facile d'organiser une activité qu'on peut qualifier de culturelle. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont, en fait, décider d'inaugurer une première visite animée dans le Vieux-Montréal. Et, bon, on va faire appel aux historiens de la Société historique pour les francophones. La visite est bilingue. Donc, la Société d'archéologie va fournir les historiens anglophones.
OK.
Et par rapport à la visite, eh bien, l'objectif, ça va être toujours être de raconter l'histoire de Montréal par ses lieux et ses monuments. Morin est dynamique, je vous le disais, il va réussir à obtenir un congé civique à Montréal pour les adultes, mais également, et ça c'est beaucoup plus rare, pour les écoliers. Il va aussi organiser avec les écoles la présence des enfants, non seulement lors de la visite historique, mais même dans le cadre de d'autres événements liés aux festivités, où les enfants vont avoir vraiment un beau rôle au point où ils vont être mentionnés dans les journaux là, comme étant des participants actifs.
Un rôle culturel, un rôle éducatif, ou s'il y a une part historique dans tout ça?
Le rôle éducatif, le côté éducatif, c'est vraiment d'assister à la visite historique comme telle, parce qu'ils sont des participants. Et l'autre côté, c'est le lendemain de la visite, il va y avoir une tournée des monuments des pionniers de Montréal. Et à tous les endroits, ce sont des enfants qui accueillent les délégations qui viennent déposer des fleurs et faire un petit discours patriotique. Là. La journée patriotique, c'était le lendemain, mais la journée culturelle, c'était vraiment la visite historique.
On peut peut-être énumérer rapidement là, d'autres trucs qui sont arrivés. Allez-y.
Je vais juste finir.
Je vous vois que vous avez l'air de vouloir.
Par rapport à la visite historique, on parlait tantôt d'éducation. Morin, c'était pas juste de dire. En fait, il y avait cet aspect de montrer. C'était montrer des choses, hein, éduquer, montrer des choses. Mais il y avait aussi pousser, toujours rappeler aux gens, là, éduquez-vous, informez-vous, renseignez-vous. Donc, la visite historique, effectivement, on n'a pas le temps de rentrer dans le contenu, mais je veux juste vous dire qu'en 23 arrêts commentés,
oui.
Morin a quand même réussi à mentionner 10 fois l'importance de l'éducation, soit en nommant des écoles, des bâtiments sur les lieux, des lieux comme tels, ou même en faisant référence à des personnages historiques comme Marguerite Bourgeois, justement, là, qui était éducatrice. Et à la toute fin de la visite, ça, c'est la partie pour moi, qui est la plus intéressante. Alors, essayez d'imaginer, Morin, il est président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Après l'évêque et le maire, c'est probablement l'un des personnages les plus influents. Alors, lui, il va réunir les enfants pour leur parler, puis encore une fois, il va leur dire, c'est important d'apprendre, c'est important de vous éduquer. Comprenez votre histoire, comprenez vos lois, votre langue. Tu sais, c'est toute cette idée de, d'émancipation, là, justement, parce que en encourageant les gens à s'éduquer, donc il pousse beaucoup. Il va pousser aussi beaucoup les études universitaires. Oui, je suis d'accord. OK, voilà.
Okay. Ben, c'est ça. On doit faire une ellipse. Bon, une fois qu'il se retire de la SSJBM, il se fait un peu plus discret, fin de vie d'essai à 96 ans quand même.
95 ans,
en 1960. Son héritage s'étrace au-delà de ce qu'il aura propagé auprès des plus jeunes, auprès de sa collectivité en entier. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui?
Écoutez, en termes de traces, on n'a pas le temps vraiment d'en parler, là, parce que c'est beaucoup plus que ça a l'air.
Oui.
Entre autres, la Commission scolaire de Montréal, là, il est pas loin de l'origine de ça. Mm-hmm. Mais en termes de traces présentes, là, marquantes, les plus connues, bon, on peut parler du château de Ramsay, qui quand même, il a été à l'origine du classement du château, château qui était constamment menacé de destruction dans les années 1920, et bon, maintenant, une fois classé, là, il est sauvegardé, la pérennité est assurée. Et l'autre monument, moins connu, mais tout aussi important, c'est l'ancienne bibliothèque de Montréal, l'actuel édifice Gaston Miron.
Oui.
Donc ça, Morin, c'est quelque chose, il a milité une dizaine d'années là, pour sa construction, puis il a été commissaire. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais la Société Saint-Jean-Baptiste l'a aussi appuyé dans ce projet de façon très discrète, mais quand même très, très solide.
Il y a carrément un prix Victor Morin à la SSJBM désormais, qui est pour le théâtre.
Pour le théâtre, parce qu'il aimait le théâtre, j'imagine, parce que je sais qu'il aimait beaucoup le théâtre, mais il n'a jamais été impliqué dans ça. Là.
Pourquoi pas? On aime tous le théâtre. Ben oui, allez-y.
OK. Alors, la dernière petite chose pour laquelle Victor Morin est quand même très connu, c'est le fameux Code Morin,
oui.
Là, qui est les procédures pour les assemblées délibérantes. Donc, je le disais un peu plus tôt, c'est riche de son expérience. Mais si... C'est pas possible. Ouais. Si, dans le Code Morin, des aspects très importants, j'ai aucun doute que c'est son passage à la Société Saint-Jean-Baptiste qui l'a inspiré, parce qu'à cette époque-là, seule la Société Saint-Jean-Baptiste faisait ce genre de choses-là. Donc, annoncer l'Assemblée dans des délais raisonnables, remettre un carton de vote, c'était la société faisait ça. Le membre pouvait voter s'il avait payé sa cotisation, c'est encore comme ça. Les CA étaient exécutifs, proposaient des choses, mais c'est quand même l'Assemblée qui était souveraine et qui décidait. Et naturellement, et ça, c'est mon lien avec les étudiants, parce qu'on se plaint beaucoup que c'est long, mais déjà en 1915, l'Assemblée, les gens dans l'Assemblée pouvaient proposer des choses, il fallait discuter.
Avoir des infos sur lui, sur d'autres de vos travaux également?
Victor Morin, non, malheureusement, j'ai rien.
Ça se trouve en ligne, en tout cas, parce que moi, je l'ai trouvé.
Il y a des choses. En fait, j'ai un texte écrit, mais c'est très court. Là.
Diane Joly, on a été un peu
coincé par le temps,
je suis désolé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On remercie également Denis Monnière, Guy Rocher, Catherine Arel-Bourdon, Maxime Laporte, n'est-ce pas? Laporte, oui, c'est bien ça. Merci également à Claude Boisvert, collaborateur à la SSJBM, Paul Beauséjour qui a assuré la mise en onde. Je m'appelle Guillaume Touzelband, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, c'est 100% Franco qui suit à l'antenne de CIBL. Bonne journée!